Europe 1, en balade avec Philippe Gueluc. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est Philippe Gueluc qui nous emmène en balade avec lui aujourd'hui. Le Belge vivant le plus célèbre de France a de Paris une cartographie bien particulière liée au personnage du chat qu'il dessine depuis 1983 et dont il a vendu des millions d'albums. Au programme donc les Beaux-Arts, la rue de l'Arbre Sec et les Champs-Élysées. Et pour commencer, il nous attend au bistrot d'Henri à Saint-Germain-des-Prés.
Frédéric Taddeï. En balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
Bonjour. Ça sent bon. Philippe Gueluc, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Nous sommes exactement à l'endroit où nous sommes arrêtés lors de notre dernière balade. On était rue Princesse aussi avec Daniel Herrero qui nous faisait visiter la rue de la Soif. Et on recommence une balade avec vous au même endroit.
C'est drôle. Alors, on a un voisin ici, ils ont un voisin d'en face qui est assez connu, qui est Castel.
Ouais.
Ici, c'est le bistrot d'Henri.
Oui.
Et voilà, moi, c'est un peu ma cantine depuis...
Et voilà Henri.
Voilà.
Non, David, non, voilà. David.
Voilà.
Le fils d'Henri, pour être précis.
Voilà, David, qui est le frère de Julien. En fait, j'ai connu le papa,
ouais.
Qui était Henri. Et c'était, en fait, la cantine de mon rédac-chef quand je suis entré dans À Suivre, la revue de BD de Casterman. Alors, il venait ici avec Hugo Pratt, avec Bouc, avec Schuiten, avec Tardy, etc. Et je me souviens de déjeuner historique qu'on a eu sous le portrait. Alors, Henri, il est sur une des peintures, là, il est tout à fait à gauche. C'est des peintures de l'époque. Et puis, il vit toujours. Et, mais c'est ses deux fils qui ont repris.
C'est un vrai bistrot parisien avec le damier noir et blanc au sol.
Une décoration qui n'a pas changé d'un iota depuis l'époque. D'ailleurs, je leur dis de temps en temps, il commence à y avoir des crevasses sur les murs. Il faudrait repeindre. Mais je ne sais pas s'ils retrouvent la même teinte exactement.
Oui, et puis, vous savez, dès qu'on les refait, c'est affreux. Hein.
Mais évidemment. Non, il faut refaire. C'est dans son jus. Et à propos de jus, ils en ont d'excellents. Ils cuisinent ici des choses. Alors, la carte n'a pas changé depuis l'époque. C'est des recettes du papa avec des produits remarquables, cuisinés par des mecs de talent. Et on se régale ici. On a terminé des soirées. On a invité tous nos potes. Ici. On a un jour passé une soirée après mon expo aux Beaux-Arts avec Christine Ockrent et Bernard Kouchner. Et Bernard Kouchner avait un coup dans le pif et il s'est mis à brailler tout son répertoire de chansons. C'était magnifique.
Et c'est quoi son répertoire de chansons, Bernard Kouchner ?
Oh, c'était des chansons sentimentales.
Chansons de carabin, peut-être. Il a fait médecine.
Il a fait médecine, mais c'était plutôt. Non, c'était les grands classiques. C'était du Joe Dassin et du Mireille Mathieu. Enfin, c'était voilà, le répertoire de la chanson française.
Et vous, c'est quoi votre répertoire, vous ? Je vous entends rarement chanter, en fait.
Je chante peu. Je continue à chanter Brassens,
ouais.
que j'aime par-dessus tout, mais je chantonne du Bach, du Vivaldi, du Schubert, du Mozart,
quand même.
Ouais, plutôt. Ouais.
Frédéric Taddeï se balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
David, je suis toujours étonné. J'adore les escargots de Bourgogne. J'en ai mangé chez vous d'ailleurs, ou peut-être que c'était votre père à l'époque. D'accord. Mais je croyais que c'était une espèce protégée. On peut encore manger des escargots
Bien
de Bourgogne.
Sûr. En fait, ils sont plus de Bourgogne, les escargots. Ils viennent souvent des pays de l'Est maintenant.
Ah, c'est ça. Hein.
Oui, absolument. Parce qu'il y a eu un problème. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement. Je crois qu'il y a eu un virus. Enfin, il y a eu un problème dans les escargots de Bourgogne.
Je crois qu'ils sont des espèces protégées maintenant. Voilà,
alors, ça peut-être. Ça, je ne suis pas au courant. Je sais que ça vient des pays de l'Est.
Ouais.
Ça, je l'ai su. Je vais reporter, je vais arrêter là-dessus.
On continue de les appeler.
Oui, ils ont gardé l'appellation. Absolument.
D'accord.
Alors, normalement, ils viennent souvent ou de Roumanie ou de Bulgarie. Enfin, absolument.
Il y a un truc qui me traumatise ici, c'est que j'ai jamais mangé d'aussi bonne blanquette de veau que celle de ma grand-mère, sauf ici. Et je n'arrive pas à leur faire cracher le morceau. Alors, j'aimerais avoir la recette, mais évidemment, ils sont jaloux comme des tigres et ne révéleront rien. Mais on mange ici, mais comme nulle part ailleurs. C'est trop, trop bon. C'est très abordable.
Merci, Philippe.
Le seul point faible, c'est que le soir, on entend beaucoup parler américain, parce qu'évidemment, ils sont renseignés dans les guides, et donc tous les touristes débarquent ici. Ouais.
Et, voilà. Et les gens,
on
c'est
pas bouche à oreille aussi.
On est plus chez nous.
Oui.
Et vous n'allez jamais chez Castel, qui est juste en face
J'y suis allé une fois. Alors, il y a un mec qui nous a payé une tournée. On a bu, et puis j'ai repayé la tournée, et ça m'a coûté un mois de salaire environ.
Il y a longtemps. Vous êtes belge, Philippe Gueluc. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu à Paris ?
Oui, c'était avec mes parents, on traversait pour descendre dans les Landes, donc j'ai eu comme ça, une espèce de shoot, comme on peut avoir, je ne me suis jamais drogué, mais on m'a raconté que c'était ça, de shoot, en me disant, qu'est-ce que c'est beau, je vais y revenir. Et puis j'y suis revenu, adolescent, et j'ai fait le parcours habituel avec un pote, on dessinait sur les quais face à Notre-Dame, et puis on rencontrait des filles, et puis voilà, et c'était magnifique. On allait voir les peintres qui exposaient le long du boulevard Saint-Michel, et puis à Montmartre, et vraiment le Paris visité par deux cons qui débarquent et qui tombent dans tous les panneaux. Et puis on est allé écouter le Requiem de Mozart à la Madeleine. Tout le monde nous a dit, mais enfin, c'est un attrape-touriste, etc. Mais c'est magnifique quand même.
Ça devait être l'époque où on racontait des histoires belges. C'est un peu passé de mode, ça.
Oui, alors
Coluche y était pour beaucoup. Hein.
C'était avant les histoires belges, et puis on les a prises de plein fouet. Ça a duré 20 ans environ.
Si longtemps que ça.
Oui.
Plus longtemps chez vous que chez nous, alors peut-être.
Non, ici.
Ici, 10 ans, je dirais. Les années 80, beaucoup.
Ouais, après, encore peut-être. Ouais. Et en tout cas, ça a été... Alors, c'est drôle, parce que c'est des histoires que les Wallons racontaient sur les Flamands. Donc, on les connaissait toutes. Elles étaient très bien racontées par des gens comme Coluche. Mais ça devenait, à un moment, c'est devenu limite raciste. Oui, parce que j'ai entendu dire que des touristes belges se faisaient caillasser la bagnole parce qu'ils avaient une plaque belge. Et là, je me dis, ça va, quoi. Si t'as les fenêtres ouvertes, en plus, tu les prends dans la gueule.
Là, ils exagèrent un peu. Mais pourquoi vous n'avez jamais raconté des histoires françaises?
Mais on en raconte. Non. Alors, on me pose toujours la question, mais je ne connais pas. Non, pour moi, l'humour doit être universel et je n'aime pas l'humour régional au dépens d'une minorité, qu'elle soit voisine, qu'elle soit régionale.
Moi, je me souviens qu'une fois, un Belge m'avait raconté une histoire française.
C'était quoi?
C'était deviner ce que font les Français après l'amour. Et la réponse était ils rentrent chez eux.
Ah oui,
je leur avais dit, mais c'est plutôt un compliment pour nous les Français.
Exactement, c'est pas dénigrant. Non, il y avait une histoire traditionnelle que beaucoup de Belges racontaient pour se défendre, c'est pourquoi les Français aiment tellement les histoires belges, parce qu'elles sont faciles à comprendre. Mais j'ai jamais joué dans cette cour-là.
Eh bien, nous allons partir en balade avec Philippe Gueluc, certainement le Belge vivant le plus connu en France aujourd'hui. Hein.
Oh ben je sais pas, vivant, oui. Écoutez, oui, parce que oui, il y a Brel, qui est au-dessus, il y a
Hergé, je continue de vous faire de l'ombre.
Mais enfin, il y a Amélie Nothomb, il y a Stromae, il y a des gens formidables. Puis vous avez eu cette chance de voir débarquer des trains entiers d'artistes belges pour essayer de vous soutenir dans cette noble croisade que vous menez.
Eh bien, allons-y, on vous suit.
Merci, David.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Frédéric Taddeï, en balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
Nous sommes dans la rue Princesse avec Philippe Gueluc. On est au milieu de Saint-Germain-des-Prés. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez dessiné le chat?
Ah oui, le vrai?
Le vrai,
celui
qui a fait votre fortune.
Oui, alors j'ai dessiné le chat pour la première fois le 3 mars 1983 à 22h30.
Comment en êtes-vous si sûr?
Parce que c'était... Je participais à une espèce de casting pour le journal. Ils avaient fait appel à 4 dessinateurs.
Le journal Le Soir. Hein,
oui, pardon. Le journal Le Soir,
en Belgique.
Qui tirait à l'époque à 350 000 exemplaires.
Énorme.
C'est énorme pour un si petit pays.
Ouais.
Et le journaliste qui m'avait demandé ça, qui s'appelle Luc Honoré, m'avait appelé le jeudi en disant « Philippe, c'est demain qu'on... Dernière limite. » Et je me dis « Oh merde, un truc. » Et j'ai fait ça le soir. Et pourquoi je me souviens de la date et de l'heure? C'est parce que cette heure-là et à cette date-là, je l'ai appris plus tard. Au moment où je dessinais pour la première fois le chat, Hergé mourait dans un hôpital bruxellois.
Hergé, le père de Tintin.
Ouais.
Ça paraît trop beau pour être vrai.
Eh ben c'est vrai, mais c'est très beau.
Et donc on peut le vérifier en retrouvant la première fois que le chat est paru dans Le Soir, c'est-à-dire le 4 mars.
Eh ben non, parce que je dessinais pour... D'abord c'était le casting, puis j'ai été retenu, et puis il y a eu un numéro 0 et puis un numéro 1.
Donc il n'y a pas de preuve.
Il est apparu pour... Si, si, parce que dans mon agenda de l'époque, j'ai retrouvé la petite note que j'avais mise, apporter les dessins à Luc Honoré le lendemain. Tout se tient.
Oui,
je n'invente rien.
En effet, oui. Donc non. Vous seriez une sorte de réincarnation, du moins le chat serait une réincarnation de Tintin.
Ça, c'est vous qui le dites.
J'ai
senti sur mon épaule se poser une main très légère de quelqu'un qui passait en disant « Maintenant, fiston, c'est à toi ». Non, on peut tous inventer. Mais évidemment, je suis pétri de culture hergéenne. Bien sûr, je connais chaque case de tous les albums de Tintin. Je la connais par cœur. Il a été pour moi la référence en termes de dessin ligne claire. Si je ne sais pas dessiner un téléphone, je regarde dans un Tintin. Pour les jeunes qui nous écoutent, un téléphone, c'était ce truc avec un fil et un cadran tournant. Et,
N'avait strictement rien à voir avec une télévision qui elle-même est une grosse boîte.
Oui.
Et pourtant, à la fin, ça donne le même objet. Vous avez remarqué ?
Absolument.
Vous regardez aujourd'hui un écran plat et un téléphone, c'est la même chose. C'est bizarre, hein ?
Ouais. Mais on appelle ça écran plat parce que les programmes le sont parfois un peu ou c'est, c'est la forme de l'objet.
Je préfère pas me prononcer.
Je vous connais, c'est pas votre genre.
Nous sommes rue Dufour.
Rue des Canettes. Les petites cannes, les petits canards. C'est pas les canettes qu'on jette dans la rue.
Et la rue Dufour, c'est parce qu'il y avait ici un four au XIIIe siècle et qu'il appartenait à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et que les habitants étaient obligés d'y faire cuire leur pain. S'ils ne faisaient pas cuire leur pain dans le four de l'abbaye, ils avaient une amende.
Ah ben, parce qu'il y avait, j'imagine, une taxe. Parce que les moines qui n'étaient pas cons...
Étonnez-vous après ça qu'on ait confisqué tous les biens de l'église au moment de la Révolution, dont l'église Saint-Germain-des-Prés, évidemment, dont on a fait une usine à salpêtre.
Nous croisons la rue Bonaparte.
Oui, on va la prendre.
Ah, si vous voulez. Ah ben oui, puisque c'est là qu'on va.
Et voilà.
Vous avez un sens du raccourci qui me laisse stupéfait.
Et je m'avais dit que vous vouliez aller aux Beaux-Arts, je ne vous ai pas demandé pourquoi, mais je sais que c'est dans la rue Bonaparte.
Absolument. Alors si, je n'ai pas fait d'école de dessin. Et pour moi, aller aux Beaux-Arts, ça signifie quelque chose. Comme ça, je pourrais dire, je suis allé aux Beaux-Arts.
Oui,
c'est comme quand mon père s'est fait incinérer. Après ça, il voulait pas, enfin, il n'y a pas eu de cérémonie, il voulait rien. Il y a juste un avis dans le journal. Et dans le journal, j'ai indiqué bon, ce qu'il avait fait, etc. Et j'ai ajouté ce qu'il m'avait dit toute sa vie, c'est qu'il avait légué son corps à la science, à l'université. Et j'ai ajouté dans la petite note dans le journal, voilà... Il a donné son corps à la science. Comme ça, au moins, disait-il, j'aurais été à l'université.
C'est assez joli. Vous savez ce que vous ferez du chat, vous, quand vous allez le léguer à qui ?
Moi, je vais le faire... Je vais faire une crémation avec moi, c'est-à-dire pour ne pas laisser de traces. Non, j'ai déjà demandé, dans divers entretiens, au notaire, à ma famille, j'ai demandé que personne ne le dessine après moi.
Ouais.
Ce qui ne veut pas dire que je bloque complètement le truc, comme ils l'ont fait avec Tintin. Si on veut s'amuser avec lui, qu'on le fasse. Si on veut faire des parodies, des pastiches, des hommages, tout ce qu'on veut, on peut le faire. Mais pas faire vraiment le chat qui dit...
Parce qu'il est tellement facile à dessiner, surtout tout le monde pourrait le faire. Quoi.
Eh bien, ne croyez pas ça.
C'est vrai ?
Non. Il y a des grands professionnels qui le font, parce que pour l'instant, j'ai une exposition. Attendez. Non, mais vous êtes... Votre
moi, j'ai
rire.
L'impression que je pourrais le dessiner à main levée, là, comme ça.
Eh ben, on essaiera tout à l'heure. Pour l'instant, il y a une exposition à Bruxelles qui s'appelle Philippe Geluck and Friends.
Il y en a une au Havre aussi. Vous avez des expos partout en ce moment.
Où une centaine de professionnels, dessinateurs, graphistes, rendent hommage à mon travail et au chat en se l'appropriant. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit, mais c'est hyper pas facile de dessiner un truc aussi simple. Parce qu'en fait, voilà, il est trop simple que pour être si facile que ça.
Je comprends.
Europe 1, en balade avec Philippe Geluck, Frédéric Tadéhi.
Alors là, on est sur la place du Québec, devant l'église Saint-Germain-des-Prés. Et là, vous avez une petite bizarrerie parisienne. Je vous la montre. Regardez, c'est la rue de Rennes qui commence ici. Et elle commence au numéro 50.
Ah bon sang.
C'est drôle, hein.
C'est drôle. Parce qu'en fait, on sait pourquoi.
Ben parce qu'ils voulaient la percer jusqu'à la Seine. Et puis, ils n'ont pas terminé. Donc, il restait 50 numéros qui sont maintenant la rue Bonaparte.
C'est magnifique.
Mais ils sont arrêtés aux 50. Donc, si un jour, quelqu'un vous dit « j'habite aux deux rues de Rennes », vous savez qu'il vous... Il y a
donc,
de l'arnaque.
Si je veux sonner chez Mademoiselle Angèle, voilà. Il n'y a pas moyen dans cette rue-là.
Voilà. On va traverser vers la place Saint-Germain-des-Prés. Alors là, il y a beaucoup d'embouteillages, bien entendu.
C'est juste un feu rouge, hein, ne voyez pas tout en noir.
Il y a les deux magots, il y a le café de Flore en face de nous. On est vraiment au cœur de Saint-Germain, quartier historique. On se retrouve dans un instant de l'autre côté du boulevard Saint-Germain. Nous avons traversé le boulevard Saint-Germain avec Philippe Geluck. On arrive donc sur la place Saint-Germain-des-Prés, juste devant nous, à gauche. Enfin, là, il y a les deux magots, puis la société, restaurant très à la mode. Vous savez que c'est là qu'a eu lieu la première projection publique de cinéma Lumière.
Oh,
on dit toujours que c'est Boulevard des Capucines, mais non, ça c'était la première projection payante. Donc on se dit c'est là que commence le cinéma parce qu'on paye. Mais avant ça, ils l'ont montré ici, dans cet immeuble, très beau.
Bien.
La société, ça s'appelle la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
Ouais.
Voilà, il y a encore la plaque au-dessus. Et il avait montré des savants, tout le monde avait trouvé ça formidable, mais là ils avaient montré que le petit film sur la sortie des usines Lumière. Il n'y avait pas encore l'entrée du train en gare de La Ciotat qui a fait si peur aux spectateurs payants.
Oui, formidable. Voilà.
Ah. Vous aimez ce quartier?
Ben oui, j'aime ce quartier parce que... Alors, je suis pris entre deux sentiments, c'est-à-dire que ce quartier est juste magnifique, il est historique, il est rempli de choses, et puis en même temps il est envahi de touristes. Donc voilà.
Donc vous.
Non, moi je suis un travailleur détaché. Je m'y balade de temps en temps. Et en fait, on commence de temps en temps quand on voyage. Je voyage peu moi, mais je sais que, par exemple, dans certains endroits, j'ai un peu honte d'être un touriste. Quand je me trouve à Venise, heureusement oui. Je parle italien et ça passe plus inaperçu, mais quand je vois, et j'ai rien contre les Chinois, mais quand vous êtes dans des quartiers où il n'y avait personne il y a 10 ans et que là vous y allez et c'est rempli de Chinois qui sont partout, qui photographient, qui vraiment très bien, mais ça enlève un peu de poésie à l'endroit.
Mais il faut dire, bon, à Venise, les touristes sont quand même en large majorité par rapport aux habitants.
Bien sûr.
Donc, si jamais il y a une révolte, les touristes peuvent se défendre.
Mais ça s'est accéléré ces dernières années. Et notamment avec ces immenses bateaux de croisière qui viennent frôler les quais de la place Saint-Marc. Voilà. Bon, peu importe.
Mais j'ai remarqué que Saint-Germain-des-Prés, on en a la nostalgie depuis très très longtemps. Déjà, il y a 50 ans, Nicoletta chantait « Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés ? »
Absolument.
Il y a 50 ans.
Et Pierre Bénichoux, qui a vécu Saint-Germain-des-Prés dans les années 50-60, me dit « Ah, mais les plus anciens lui disaient « Mais mon pauvre ami, si tu avais su ce que c'était dans les années 30, ça, c'était le vrai Saint-Germain-des-Prés. »
Et bien, on va écouter Nicoletta.
Europe 1, en balade avec Philippe Gueluc.
Que s'est-il passé, mon Saint-Germain-des-Prés ? Non, rien ne peut plus masquer tes yeux scellés. On te lumiérise, on te concertise, mais ton cœur si bas ne bat plus du bon côté. Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Toi qui m'a donné la main pour me trouver. Même tes fenêtres ouvertes sont closes. Qui a bien pu t'emmener? Un soir, il pleuvait, moi je te découvrais. Saint-Germain-des-Prés, ma jeunesse perd, elle ne veut plus penser qu'elle pleut sur la ville, qu'une fititude et rentre avec sa solitude.
C'était Nicoletta qui chantait « Où es-tu passé ?» Mont-Saint-Germain-des-Prés sur une musique de Francis Lay qui nous a quittés il y a peu. Nous sommes rue Bonaparte avec Philippe Gueluc en direction des Beaux-Arts de Paris. Alors la rue Bonaparte, là il y en a des gens qui ont habité ici. Hein. C'est, oui, c'était alors, dingue.
Faites-moi
hein.
La liste.
Oh, Jean-Paul Sartre habitait ici avec sa maman au 42. Romy Schneider au numéro 32. Il y avait Auguste Comte. Wolinski au numéro 34. Oui. Tout en bas, là-bas, il y avait Jean-Luc Delarue. Il y a eu Édouard Manet.
Et vous savez qui occupait l'atelier de peintre qui se trouve sur le coin du Quai Malaquais de l'avenue Bonaparte ? Ah, de la rue Bonaparte, je vais vous apprendre quelque chose.
Je vous écoute.
Le dessinateur Jean Eiffel.
C'est vrai ?
Oui. Il avait son atelier là et mon père, qui était distributeur de films en Belgique, avait distribué son long métrage d'animation qui s'appelait La création du monde.
Oui.
Et il était venu le voir là dans son atelier, vu sur la Seine. Et sur le. Il n'y a pas un truc en face là qui est une sorte de. Qui était un palais.
Je crois que c'est le Louvre.
Le Louvre, voilà, c'est ça. Le nom ne me revenait pas. Et bon, il avait vu là-dessus.
Peut-être que le chat n'a jamais été exposé au Louvre encore.
Si.
Si.
Une seule fois.
J'ai eu peur. Je l'ai trouvé un peu snob.
Il n'y a aucun artiste vivant qui avait été exposé là. Et un jour, je fais une émission de télé avec. Zut, je ne retombe pas sur son nom. Bref, on fait ça. Et on rentrait dans le Louvre et on monte. Guillaume Durand, voilà, Guillaume Durand. Et on monte l'escalier face à la Victoire de Samothrace, on tourne à droite, etc. Et on présentait l'émission à deux. Et à un moment, je lui dis, Guillaume, est-ce que je peux réaliser un fantasme personnel ? Il me dit, oui, allez-y. Et j'avais préparé un dessin et une gommette. Et je l'ai mise sur le mur. Je dis, voilà, comme ça, le chat était exposé au Louvre. Alors, il a rigolé, il trouvait ça bien. Et puis, je dis, et vous allez réaliser, parce qu'il est collectionneur d'art,
ouais.
Vous allez réaliser un fantasme que personne, aucun collectionneur n'a vécu dans sa vie, c'est que vous allez recevoir une œuvre qui a été exposée au Louvre. Et je lui ai offert le dessin.
Mais je ne vais pas vous faire de peine, il y a des artistes vivants qui ont été exposés au Louvre.
Oui, mais je pense...
Regardez Enki Bilal, par exemple.
Absolument. Mais ça a été après. Moi, j'ai fait l'acte fondateur. Et après, ils se sont dit, c'est une bonne idée.
Ça peut être ça, effectivement.
Frédéric Taddeï se balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
Alors vous voyez, là, regardez la plaque, c'est ici que pendant la Première Guerre mondiale s'était réuni le Conseil national des pays tchèques avec Masaryk. On finira par leur donner la Tchécoslovaquie au traité de Versailles. Mais jusque-là, ils étaient que dans ce petit immeuble. Vous voyez, c'est un point de départ.
Ouais. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui ont commencé ici.
Vous, c'est drôle parce que pendant longtemps, les Français ne savaient pas que vous étiez dessinateur. Ils pensaient que vous étiez animateur de télé. Ils voyaient chez Doiker, ils vous entendaient chez Ruquier.
Oui.
Je sais pas s'ils faisaient le rapprochement avec le chat.
Mais c'est-à-dire comme Drucker m'a très vite demandé d'offrir un dessin à chaque invité en fin de dimanche.
Ça peut être un hobby.
Oui, mais le chat avait une certaine audience avant mon arrivée chez Drucker. Et évidemment, le passage à la télé devant le grand public a décuplé. La notoriété du chat. Mais ils avaient une petite notion tout de même de ce que c'était. Mais c'est vrai que le très grand public a découvert ça à l'occasion.
Nous voilà devant la grille de l'École des Beaux-Arts. Une grille particulièrement impressionnante. Nicolas Poussin en statue à droite et Pierre Puget à gauche. On va voir s'il nous laisse rentrer.
À mon avis, on doit passer par la petite porte.
Eh bien, allons par la petite porte. On s'y retrouve.
Frédéric Taddeï. En balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
Nous sommes avec Philippe Gueluc dans la cour des Beaux-Arts de Paris. À notre droite, la façade de la chapelle de l'école. Face à nous, le palais des études avec sa verrière. Une très belle cour. Il y a quelques motos, mais pas de voiture aujourd'hui. Voilà une école que vous auriez pu faire.
Oui. Mais la vie en a décidé autrement. J'ai fait des études de comédien. Et j'ai jamais étudié le dessin. Ne me dites pas, ça se voit. Pas,
je pensais à votre père, distributeur de films. Mais je me suis dit, bah, voilà, vous cherchez le piston.
C'est vrai. C'était pas le genre de la maison. Mais voilà, j'ai jamais fait d'école de dessin. Je ne le regrette pas. C'est comme ça, c'est très bien. Le théâtre m'a apporté d'autres choses. Et peut-être d'ailleurs cette posture du chat qui s'adresse au lecteur, comme dans un stand-up. C'est-à-dire que dans la BD traditionnelle, il y a ce quatrième mur comme au théâtre, mais à la différence du théâtre, le chat, comme dans un stand-up, s'adresse au lecteur ou au spectateur. Et ça, ça me vient peut-être de la scène.
Je me souviens d'ailleurs qu'un soir, dans ce soir ou jamais que j'animais à l'époque sur France Télévisions, vous étiez là et j'avais reçu Fanny Ardant.
Ouais.
Et vous m'aviez dit que vous aviez tourné dans Benvenuta, le film d'André Delvaux, qui remontait à loin, hein, mais ouais. Vous jouiez son père.
Oui, dans une scène imaginaire, parce que voilà, je n'ai pas l'âge d'être son père.
Elle pensait à vous, sauf qu'elle ne vous connaissait pas, vous n'avez jamais vu pendant le tournage. Et...
Si, quand même, vous étiez ensemble.
Ah
oui, on a joué ensemble, c'était magique.
Ah oui.
Alors,
je
n'ai pas eu une grande expérience au cinéma, je n'ai pas joué dans beaucoup de films, mais de pouvoir jouer comme ça quand on est jeune comédien.
Parce que moi, dans mon esprit, je m'étais dit, ils n'avaient pas dû se croiser sur le tournage, vu que vous étiez assez jeune quand même pour jouer le père de...
Non, mais alors voilà, elle est dans un café, elle écrit, elle fume une cigarette, et puis... Elle se met à penser à son père. Et comme si son songe se réalisait, son père vient s'asseoir en face d'elle,
à l'âge
comme
qu'il
dans
avait.
Son souvenir. Voilà.
D'accord,
et
je
douce,
comprends
voilà.
mieux. Alors, je pensais que vous ne l'aviez jamais rencontré.
Ah
comme
non,
ça peut arriver parfois.
Si. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Nous avons évoqué ce souvenir.
Ah oui. À chaque fois que vous la voyez,
ah ben, je lui
vous
parle
êtes obligé
de ça, évidemment.
De ça.
Non, je lui parle toujours de son travail à elle, de son talent, parce qu'il paraît qu'elle est tellement bien dans le film du fils Bedos. Alors voilà, ici c'était l'entrée. Enfin, j'ai dit c'était l'entrée parce que, pardon de parler de moi, mais on est là pour... ça évoque cette cour vitrée, cette cour d'honneur de l'École des Beaux-Arts.
La cour vitrée du Palais des Études, avec sa verrière magnifique.
Voilà. Fut le lieu qui accueilla la grande exposition que j'ai montée à l'occasion des 20 ans du chat en 2003. Et c'est l'idée d'un ami qui me disait, tu dois absolument faire un anniversaire pour les 20 ans du chat, on va essayer de trouver une galerie à Paris qui peut le faire, et puis on va voir deux, trois galeries. Et puis il me dit, non, mais il dit, je vois cet après-midi, directeur des Beaux-Arts, je pourrais lui proposer de faire ton exposition là-bas. Il lui en parle, le type dit, j'adore le chat, on le fait. Et je me retrouve face aux dames responsables des expositions qui me disent, voilà, racontez-moi votre projet. Et j'avais pas encore du tout pensé à quoi que ce soit. Et j'ai inventé devant elle.
Il faut dire pour les auditeurs, c'est très grand. Hein.
Ah, mais ça fait 900 mètres carrés et ça fait au moins 40 mètres de haut, 30 mètres de haut. Et donc, je leur ai dit, pour investir un endroit pareil, il ne faut pas juste mettre des panneaux avec des dessins et des planches, il faut créer un événement. Et je leur ai dit que j'allais agrandir les objets de ma table à dessin des millions de fois et créer une scénographie qui comporterait un crayon qui fait finalement 30 mètres de long.
Oui, je me souviens du crayon. Moi.
Qui comporte trois salles d'exposition, un pot de peinture de 8 mètres de haut, un carnet de notes, une bouteille d'encre de Chine, etc. Et toutes les fenêtres arrondies autour de la salle, je les ai occultées et j'y ai placé des toiles de 3 mètres par 2 à l'acrylique que j'ai faites en hommage aux Beaux-Arts, mais en y mêlant le chat. Et donc cette exposition.
Moi, pour moi, c'était plus un hommage à Chéri, j'ai rétréci les gosses ou un truc comme ça. Parce que quand on marchait à côté du crayon, on se sentait vraiment tout petit.
On se sentait tout petit. Mais ce qui a importé, c'est le cœur de l'exposition, c'est ce qu'on y voyait. Et ce qui m'a épaté, c'est d'abord le succès phénoménal.
Oui,
parce
c'était
que
dingue, je crois.
L'exposition a attiré en tout 350 000 visiteurs. Elle était à Bruxelles ensuite. Et puis les gens sortaient de là avec des larmes aux yeux, de rire, mais aussi des larmes aux yeux d'émotion. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. On a ressenti dans cette expo une émotion à laquelle on ne s'attendait pas. Et ça, ça m'a...
Mais vous avez une preuve qu'ils vous ont dit ça? Vous l'avez noté dans votre calepin aussi?
J'ai des enregistrements. Waouh. Mais c'est bien, c'est beau quand c'est vide aussi. Hein.
Vous entendez comme ça résonne?
Oui. Alors, résonner, ce que j'aime dans le mot résonner, c'est qu'il a deux orthographes et deux acceptions. On peut résonner en créant de l'écho et puis on peut résonner en pensant.
C'est vrai.
Europe 1, 11h30, en balade avec Philippe Gueluc. Frédéric Taddeï.
Qu'est-ce qui représente pour vous le chat?
Un compagnon de route, un autre moi-même.
Quelle est sa morale, son message? C'est l'immobilité, c'est la sagesse, c'est un faux candide?
La phrase que j'ai préférée sur le chat avait été écrite par un critique d'art qui s'appelait Pierre Sterckx et qui a écrit « Le chat, c'est du Tex Avery immobile
». C'est bien.
Et je trouvais cet oxymore...
Personne n'a joué le chat encore. Depardieu pourrait le jouer.
C'est vrai. Jean Benguigui aussi.
Ouais.
Il faut quelqu'un de plutôt rond, d'un peu sentencieux. On a fait quelques tentatives. Il y a eu une série animée. Il y a un truc. Et puis, c'est rien que. Enfin, c'est jamais mieux que dessiner.
Oui, c'est toujours pas ça. Moi, je suis pour les personnages dessinés restent dessinés. Ouais.
Vous savez que la plus belle phrase de Môme que j'ai entendue, c'est une lettre que Hergé a reçue un jour d'un jeune lecteur qui était allé voir le dessin animé et qui lui a écrit sa déception en disant j'ai moins aimé parce que dans le film, le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les livres.
C'est vrai? Bien sûr, c'est ça, mais ils n'ont pas non plus le même relief, le même volume. Ouais. C'est très bizarre. C'est toujours très bizarre.
Bon, on verra.
Enfin, en même temps, je suis sûr que si Spielberg devient demain veut adapter Le Chat comme il a voulu adapter Tintin, vous ne direz pas non.
Bah, au moins, on peut en parler.
Et pensez à Depardieu. Depardieu, je l'ai dit, on avait parlé d'Obélix un jour et je disais Obélix, c'est bête. Il me dit non, Obélix n'est pas bête. Obélix n'anticipe pas.
Ah, c'est voilà. Joli.
Et si vous voulez en savoir plus sur Le Chat, demandez à Depardieu, il a toujours les réponses.
Très bien, je l'appellerai.
On va ressortir des Beaux-Arts, je pense que ça a été un peu le sommet de votre carrière.
Mais peut-être pas.
On
verra.
On va continuer. Nous sommes à présent sur le Quai Malaquais avec... Philippe Geluck qui sort un nouvel album du Chat, c'est le combienième?
Le 22e.
Le 22e, La Rumba du Chat.
Exact.
C'est, ce qui est drôle, vous pouvez changer de titre assez facilement, même les intervertir. J'ai l'impression que ça n'a aucun rapport avec ce que vous racontez à l'intérieur.
Ah merde, alors je suis percé à jour. C'est vrai que quand j'ai titré un album Le Chat au Congo, dans les 80 pages, jamais il ne met les pieds sur le continent africain. Donc,
mais le Congo ayant été belge pendant un certain temps...
Il y avait une résonance évidente. Non, c'est ça, c'est des titres à la noix, comme Le Retour du Chat, La Vengeance du Chat, Le Chat est content, etc. Ça pourrait être des titres de série B. Et pourtant, c'est une série A de la bande dessinée.
Cela va sans dire, nous sommes devant les bouquinistes, là. Je ne sais pas s'ils en ont, il y a beaucoup de Tintin.
Oui.
Il y a des Tintins, il y a des Astérix.
Il y a du Gaston, il n'y a pas de Chat.
Il y a Bécassine.
Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens les ont, ils ne les revendent pas après.
C'est possible.
Et qu'ils se les passent. Alors ça, c'est aussi un fait qui me trouble énormément, c'est qu'ils se les passent de génération en génération. Et de plus en plus, alors maintenant plus
jeune... Et pas les Tintins, vous voulez dire?
Si, aussi, bien sûr. Mais plus j'avance en âge, et plus je me rends compte qu'il y a des jeunes lecteurs qui arrivent et qui me disent « Ah, mais mes parents m'en ont parlé et mes grands-parents m'en ont parlé. » Et ils lisent ça ensemble. Et il y a une dame qui m'a dit « Quand je vois mon père et ma fille qui se tordent de rire en lisant vos conneries, ça me fait trop plaisir. »
Philippe Geluck, vous êtes le premier Belge à être né grâce à l'accouchement sans douleur.
Oui.
Je ne manque jamais de vous le rappeler. Quelle influence ça a eu sur vous?
C'est-à-dire que je me suis dit que... Bonjour madame. Une dame qui dit miaou miaou.
Quelle renommée, vous rendez compte? Voilà ce qu'on écrira sur votre tombe.
Miaou miaou, voilà. Des premiers belges, oui, sans douleur. Ça m'a donné une impulsion. Voilà, je me suis dit, je ne pourrai plus jamais faire souffrir les femmes.
Oui, c'est une bonne résolution. Ah. C'est une bonne résolution.
C'est pour ça que j'ai euthanasié ma grand-mère qu'elle...
Mais vous aviez eu votre photo dans le journal, hein, quand même.
Oui, dans le journal de la Mutuelle. Moi, j'étais de dos. On peut prendre si vous voulez.
Traversons, c'est la passerelle des arts.
Voilà.
Entre l'Académie française et le Musée du Louvre.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prend garde à ton chapeau. Brassens.
Ouais. Ah.
C'est... Ah oui, ça, c'est... Bonjour madame. Ça c'est bien. C'est le piège pour une interview dans les rues, c'est de croiser sur un truc
de votre public,
avec des rainures, des valises à roulettes.
Oui, c'est ça. Et en plus, il n'y a que les dames qui vous reconnaissent. Marquez ?
C'est-à-dire que chez les hommes, je sens cette pointe de jalousie qu'ils ressentent en croisant un type avec un physique comme le mien.
Ou alors c'est lié à l'accouchement sans douleur.
Peut-être.
Peut-être pour ça, vous êtes une sorte de héros. C'était le même jour que la chute de Didier de Maillefou.
Oui. Ouais. Là, ça n'a pas été sans douleur, hélas.
Ouais. Enfin, pour nous surtout, parce que les Belges, vous étiez moins concernés.
Bah, nous, on avait le Congo qui se préparait. Ouais. Mais on a eu tout ça. Enfin, on a eu le retour de la monnaie. Hein. On a eu la monnaie de la pièce.
Mais il y a eu plus important. En mai 54, c'est marrant qu'on se souvienne, et de vous, et de l'accouchement sans douleur de votre maman et de la chute de Dien Bien Phu, parce que en mai 54, c'est l'acte de naissance officiel du rock'n'roll.
Non.
Vous avez l'âge du rock'n'roll. C'est alors évidemment le rock'n'roll existait avant, les noirs en faisaient, mais comme ça passait pas à la radio, pour tout le monde, la naissance du rock'n'roll, c'est Rock Around the Clock. Bill Haley and the Comets, mai 54.
Ah bon sang.
La première fois, le rock'n'roll arrive en haut des sort en 45 tours et arrive en haut des charts, parce que les blancs peuvent en entendre, puisque jusque-là, les noirs n'étaient pas autorisés à passer à la radio. Et voilà, vous avez l'âge du rock'n'roll.
Ça ne me rajeunit pas, mais en même temps, ça reste joyeux.
Oui,
cette
vous
musique.
Semblez même plus jeune que le rock'n'roll. Hein.
Je vous remercie.
Non, mais le rock'n'roll, c'est vrai. C'est quand on pense Bill Haley et les Comets.
Bien sûr, moi je pense aussi à Dick Rivers.
Qui vient de nous quitter, ouais, malheureusement.
Malheureusement.
Et bah, écoutez, on va se mettre un petit bout de.
Oh, de Bill Haley.
Bah oui, mettons-nous du
et,
Bill Haley.
Et alors, ce que j'ai découvert évidemment plus tard dans ma vie, lorsque je me suis intéressé à la langue et aux jeux qu'on pouvait pratiquer, c'est que Bill Haley, évidemment, la comète de Haley et les comètes, c'était un truc, mais on ne le comprend pas tout de suite. Hein.
C'est vrai.
Non.
Vous étiez tout petit hein, à l'époque, c'est normal.
Mais pas aussi intelligent que vous.
Non,
vous étiez déjà premier de classe, vous.
J'étais pas né, moi, surtout.
On c'est vrai, vous êtes plus jeune que moi.
Oui.
Ah, mais vous êtes plus.
J'allais dire largement.
One. 2 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight put your glad rags on join me home we'll have some fun when the clock strikes one we're gonna rock around the clock tonight we're gonna rock 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 till broad daylight we're gonna rock around the clock tonight when the clock strikes 2 3 and 4 Chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Et les Comets qui chantaient Rock Around the Clock en mai 1954, enregistré en avril, et deux mois plus tard Elvis Presley enregistrera That's Alright Mama, son premier disque. Voilà,
c'est bien. Mais alors moi le rock'n'roll, j'ai mis 15 ans à le découvrir parce que mes parents n'écoutaient à la maison que de la musique classique ou les chœurs de l'Armée Rouge, donc ils n'étaient pas très rock'n'roll.
C'était très guerre froide, hein.
Ah oui. Même glacial.
Ils avaient choisi leur camp.
Même glacial, voilà. Plus tard, ils ont compris que, voilà, ils s'étaient peut-être un petit peu enthousiasmés trop pour un système qui ne donnait pas tous les résultats escomptés. Mais ils sont restés des idéalistes, ils sont restés des militants pour les causes justes par ailleurs. Ils sont devenus écologistes et au moins les arbres ne les ont jamais déçus.
Et vous alliez dans les colonies de vacances communistes.
J'étais garde rouge en Tchécoslovaquie. J'ai passé des vacances en Bulgarie, en Yougoslavie, bien sûr. Ah oui, oui.
Et vous lisiez, j'imagine, PIF.
Alors,
c'était les communistes.
Bien sûr, c'était les communistes. Et je n'avais que des lectures saines. J'étais interdit de Walt Disney, pas un Coca-Cola à la maison et jamais de Monopoly non plus, parce que c'était un jeu, évidemment.
D'argent.
D'argent, donc niette.
C'est drôle, mais vraiment, vous êtes sérieux.
Ah, mais vraiment. Et j'essayais de convaincre mes camarades de classe que Yuri Gagarin était le plus grand héros de tous les temps.
Ce qui était le cas à l'époque.
À l'époque. Mais que les Russes avaient fait tellement plus pour la conquête spatiale que les Américains. Et puis à un moment que même marcher sur la Lune, c'était de la rigolade. Après la première femme dans l'espace. Enfin, voilà, des conneries comme ça. Parce que j'entendais ça à la maison et que j'étais persuadé de porter la bonne parole.
Dis donc, on le sent pas du tout dans le chat, ça.
Je suis arrivé à me détacher de tout ça.
Eh bien, on se retrouve dans un instant avec Philippe Gueluc, rue de l'Arbre Sec. Alors, qu'est-il arrivé au chat rue de l'Arbre Sec ? Il va nous le dire.
Frédéric Taddeï, en balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
Nous sommes arrivés avec Philippe Gueluc au musée en herbe, rue de l'Arbre Sec. Un musée qui est ouvert de 3 à 103 ans, nous dit-il. C'est un musée pour les tout-petits, donc.
En fait, c'est un musée pour tout le monde. Et on se rend compte, quand on veut raconter l'art aux enfants, mais ça plaît énormément aux adultes. Et moi, quand je vois... J'avais fait une expo ici, il y a 3-4 ans, je vous en parlerai.
Doutez un peu, si vous vouliez nous...
Oui, mais c'est surtout parce que je veux rendre hommage à l'équipe et au formidable travail qu'ils font. C'est pas du tout pour parler de moi. Mais, non, mais sans déconner, mais je me suis rendu compte que ce que je voulais dire aux enfants, parler à tous, on avait simplement confronté des artistes établis, des artistes monumentaux. Il y avait Picasso, il y avait Soulages, il y avait Fontana, il y avait Warhol, il y avait Basquiat. Nous exposions des œuvres originales de ces artistes.
Tous commentés par le chat.
Voilà, avec une œuvre faite par moi-même qui était à côté. Et donc, c'était une formidable passerelle pour les enfants qui aiment le chat et puis qui comprenaient mieux le tableau.
Fontana, il comprenait Fontana.
Ah mais oui, mais je l'ai expliqué. Un jour, j'arrive, il y a une grand-mère qui est très énervée en disant « Mais c'est pas pour toi, c'est pas comment c'est. » Et j'ai pris le gamin par la main, je lui ai dit « Viens voir ça. » Regarde, je dis, le Fontana, il s'appelait Lucio Fontana, il s'amusait à donner des coups de cutter dans des toiles. Et regarde, moi j'ai fait la même chose avec le chat qui gratte des fauteuils. Et sa femme lui dit « Tu ferais mieux de faire des Fontana au lieu d'abîmer les divans. » Et le môme était mort de rire, c'était parti.
Eh bien, rentrons. Il y a une exposition en ce moment consacrée à l'Atlas, un artiste contemporain.
Walk the Line.
Walk the Line de l'archéologie au graffiti.
Bonjour le musée en herbe. Bonjour Sylvie.
Philippe Gueluc reconnaît du monde. Bonjour madame.
Ah oui, quand même. Bonjour. On a cohabité longtemps.
Pendant un an au moins.
Ça avait du succès, oui. Le chat ici.
Fou, succès fou.
Ouais, on a dû prolonger, hein, de 6 mois, je crois,
oui,
tellement
absolument.
Ça.
Ouais, ouais.
Et c'était, on
des
a fait.
Des petits, des grands, des moyens.
On a fait l'inauguration de ce lieu parce que avant, mais ça c'est Sylvie qui doit nous raconter, avant d'être ici, ils ont été dans deux autres endroits.
Ah oui, on a été nomades jusque il y a 3 ans, 4 ans, quand est-ce qu'on a eu l'exposition.
Et avant ça,
ici, jardin d'acclimatation, Halle Saint-Pierre, rue
et au lieu de l'enfance,
et ici.
Voilà.
Voilà, absolument.
Mais quelle idée absolument lumineuse a eu Sylvie de créer ce musée, parce que...
C'est vous qui êtes la fondatrice,
oui,
du musée en herbe.
Oui, ouais. Absolument. Ben, ça...
Parce que... initier les enfants. La phrase qu'on a entendue le plus souvent quand j'ai fait mon expo, après le truc, les enfants disaient « Waouh, c'était génial, quand est-ce qu'on retourne au musée ?»
Ah et, oui, c'est vrai, c'est
ça,
rare là.
Voilà, et ça on n'entend pas souvent à la sortie des musées traditionnels.
La bonne idée, c'est de l'avoir fait dans la rue de l'Arbre Sec, qui est une rue où avait débuté la journée des barricades à Paris.
Il y a l'arbre du pendu au bout, d'ailleurs.
Oui, en plus, c'est une rue sinistre.
C'est joyeux,
oui. Oui, oui. La guerre civile, la fronde, ça a débuté ici.
Voilà.
Hein.
Mais il y a une école et une crèche à côté, quand même, avant l'église.
Et ils ont failli y avoir 20 morts il n'y a pas longtemps, avec un morceau de la façade d'en face qui s'est écroulé.
C'est vrai ?
Oui, c'est un chantier de machin.
Devant l'école à côté, et nous, on avait un groupe d'enfants qui ramassaient ses affaires.
Et les parents vous les laissent encore venir.
Parce qu'ils ont réparé maintenant.
Oui, c'est ça.
Et ça a mis du temps. Ils ne reconnaissaient pas vraiment leurs responsabilités.
On a été fermés pendant 2 mois. Non,
je crois qu'il y avait l'hôtel. Je crois qu'il y avait l'hôtel des Mousquetaires aussi. D'Artagnan a peut-être habité.
Rue de l'Arbre
Sec
aussi.
Vous venez, on va voir l'expo Walk the Line.
Europe 1, en balade avec Philippe Gueluc.
Déjà, on rentre ici et moi, je suis confus. Mais non, j'ai pas vu l'exposition. Mais voilà, tu vois ça et t'as tout compris. Il reprend des...
Il y a un petit bac à sable, moi, je vois.
Ah, ça, c'est pas un bac à sable, c'est un chantier de fouilles.
Non, moi, je vois ce qui est écrit, ce qui est exposé sur les murs, c'est des pièces anciennes, ce sont des morceaux. Alors ça, c'est un...
C'est des œuvres prêtées par le département des arts islamiques au Louvre, qui sont mis en contrepoint avec le travail de l'artiste Latlas.
Ah, voilà. Et ça, quand on voit des graffitis dans la rue, on ne se rend pas toujours compte
que
ça vient de quelque part.
Mmh. Il y a des Kessaring.
Ils savent ce qu'ils font aussi.
Ils savent ce qu'ils font aussi.
Kessaring, ça doit plaire aux enfants, non ?
Kessaring, oui, on avait fait une exposition d'ailleurs, Kessaring, qui a très très bien marché.
Ouais.
Oui, et là, c'est vrai, c'est un des maîtres, comme Vilglé, de l'artiste actuel. Ouais. Tout n'est pas de rien.
Et alors, est-ce qu'il y a des artistes qui ne marchent pas du tout avec les enfants ? Ça les laisse totalement indifférents. Vous avez essayé, mais ça ne marche pas.
Non, jamais. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a toujours ou bien choisi nos artistes, ou réussi.
Il
n'y
en avait eu aucun dans votre exposition sur le chat confronté à l'art.
Buren avait refusé d'être présent dans l'exposition. Mmh. On a respecté sa volonté.
Oui.
Voilà. Et sinon, non, mais ce qui est magnifique avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas justement de... Ils sont complètement ouverts. Ouais. Pour eux, l'abstraction est juste quelque chose dans lequel ils rentrent se poser de questions. Et ce qui est amusant, c'est quand on les prend par la main pour faire un vague travail pédagogique en disant « mais vous savez d'où ça vient ça ?» ça les réjouit d'autant plus. Mais ils n'ont pas cette espèce d'allergie que les adultes peuvent avoir lorsqu'ils ne comprennent pas immédiatement de quoi il s'agit.
Il paraît que votre mère vous emmenait au musée tout le temps quand vous étiez petit.
Toutes les semaines. J'allais voir le musée des sciences naturelles, mais aussi les musées de l'Égypte ancienne, et puis les musées plutôt d'art ancien. Et je m'amusais comme un fou, là.
Et vous savez ce qui vous a donné envie du musée en herbe ?
Oui, moi je sais ce qui m'a donné envie du musée en herbe, c'est que je m'ennuyais beaucoup, contrairement à Philippe, dans les musées, quand j'étais enfant. On n'avait pas le droit de parler, en tout cas c'était peut-être pas pareil à Bruxelles et à Paris. Et qu'il y avait des tels trésors, et qu'on se disait si tout le monde pouvait avoir les clés pour profiter de ces merveilles. Ça serait formidable. Et donc, l'idée, c'était de créer un musée en herbe pour que les enfants, dès le plus jeune âge, se sentent à l'aise avec l'art et aillent dans les musées, même face à un petit peu de bruit.
C'est il y a longtemps, maintenant, 75. Hein,
oui, c'est ça fait.
Ce que dit Sylvie me fait penser à ceci. C'est parce que je pense qu'elle fait vraiment un travail démocratie. C'est-à-dire qu'on trouve que notre société va mal. Et on dit, mais oui, mais on a laissé aller les choses. Et maintenant, s'il faut tout reprendre à zéro, c'est plus possible, puisque la deuxième, la troisième génération des gens qui n'ont pas été bien éduqués, c'est compliqué à rattraper. Sylvie, elle attaque à la base. Elle prend les enfants et elle leur explique que l'art est une chose importante dans nos vies et que la culture est quelque chose de fondamental.
Elle les dresse, après, quoi. Elle les dresse.
Non, elle leur ouvre l'esprit.
Voilà.
Elle leur ouvre l'esprit.
J'essaie autant que possible, parce que ça, c'est pas possible d'être au plus proche de la tête des artistes, et autant que possible dans la tête des enfants, et puis de faire un lien.
Sans déconner, ça me touche, ça me transperce d'émotions de voir comment les gens m'en parlent et comment cette exposition a été importante pour eux et pour les parents et pour les enfants et pour les deux réunis. Je vous jure que c'est vraiment très très troublant et on se rend compte que tout est à faire et qu'il faut le faire et qu'il ne faut pas tarder à le faire et qu'il faut le faire tout le temps. Et merci Sylvie de le faire.
Et merci Sylvie de nous avoir accueillis. On va continuer notre balade. Je sens que le chat n'a pas fini de nous étonner. On écoute les infos et on se retrouve juste après avec Philippe Gueluc.
Frédéric Taddeï, en balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Philippe Gueluc. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours en balade avec Philippe Gueluc qui vient de publié le 23e album des Aventures du Chat, La Rumba du Chat, chez Casterman.
Désolé de vous interrompre, Frédéric, mais c'est le 22e.
C'est le 22e, ouais. Pardonnez-moi, Philippe.
Non, mais je sais que ça paraît plus... Mon œuvre paraît plus ample qu'elle n'est. Mais...
Je sais que vous les comptez attentivement,
ah,
vous
venez
d'en donner la preuve. Est-ce que vous avez calculé ce que le chat vous a rapporté depuis 1983 ?
Non. Alors, si ça avait été un chien, il m'aurait rapporté la baballe... comme tous les chiens, mais non, oui, alors ce chat m'a permis de payer ma maison, et même d'en acheter une autre, de nourrir ma famille, d'aider mes enfants à démarrer dans la vie, Donc voilà, il m'a permis de vivre confortablement et il m'a surtout, je vais vous dire le plus important dans le truc, parce que mon mode de vie n'a pas vraiment changé depuis que je l'ai inventé, il m'a surtout donné la liberté. La liberté artistique, la liberté de penser, la liberté d'être, la liberté de que je n'ai jamais, enfin que j'ai toujours revendiqué. Mais t'es un artiste débutant et t'arrives pas à boucler tes fins de mois. T'es bien avec ta liberté. Comment tu nourris tes enfants?
Ça fait de la télé aussi.
Oui, mais
en Belgique, c'est une star de télé dingue.
Oui, mais de façon très libre. Et alors, c'est pas un conseil que je peux donner à personne.
C'est vendre des wagons et des wagons d'albums du chat.
Essayez de vous offrir la possibilité de faire plusieurs métiers parallèlement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été comédien, dessinateur et animateur ou chroniqueur télé en même temps, ou radio. Je faisais trois ou quatre métiers différents. Si on m'emmerdait dans l'un, j'avais les autres pour continuer à vivre. Et donc, j'ai jamais signé de contrat dans ma vie. J'ai pas un contrat écrit avec qui que ce soit, parce que ça a toujours laissé libre mes employeurs et moi-même.
Europe 1, 11h30, en balade avec Philippe Gueluc. Frédéric Tadéhi.
Et là, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai découvert tout à coup une autre face de Philippe Gueluc que je voyais comme quelqu'un d'assez doux, j'allais dire consensuel, non, mais doux. Doux, oui, et rêveur,
bienveillant,
à l'image du chat. Et puis tout à coup, quand vous avez commencé à publier dans Ciné Hebdo, tout à coup, j'ai vu un autre Philippe Gueluc, la face sombre.
Ouais. Hein, un monstre.
Un monstre, oui, apparaître, qu'on a retrouvé par la suite dans quelques albums. Ouais. Gueluc pète les plombs, Gueluc se lâche, ouais, qui était la réunion de tous vos dessins parus chez Ciné.
Augmenté de chroniques que j'écrivais.
D'une
comme ça,
noirceur absolue.
Absolument.
C'est votre côté sombre, ça.
Ça a toujours été en moi.
Alors, Ciné dessinait des chats, lui aussi, à ses débuts. Hein.
D'une part, il dessinait des chats délicieux et poétiques. Et puis, il a fait les dessins les plus monstrueux de l'histoire du dessin de presse. Il avait un dessin rageur, un dessin engagé, c'était un révolté. Et l'un n'empêche pas l'autre.
Mais ce qui est drôle, c'est quand vous êtes arrivé chez Ciné, comment vous ont accueilli les autres? Parce que pour les autres, vous étiez le type qui fait le chat et qui est chez Drucker.
Exactement, ils lui ont dit, mais enfin, Gueluc, tu n'y penses pas, il est chez Drucker, c'est un mou, c'est un truc. Et Bob Ciné, qui me connaissait bien et depuis longtemps, m'a dit, attendez, vous allez voir. Et puis j'ai commencé à me faire mes premiers dessins. Et dans certains, j'allais plus loin que les plus ultras de la bande de Ciné.
Vous avez fait quelques dessins sur la pédophilie des prêtres, sur Schumacher, qu'on voyait sur son...
Absolument, sur le djihadisme, sur la burqa, etc. Bien sûr.
Sur les personnes handicapées, sur les transgenres.
Ouais. Sans aucune limite, sans aucun tabou. Et évidemment, c'est nécessaire pour ce journal-là, parce que les lecteurs en redemandent. Et puis finalement, j'avais en séance de dédicace des vieilles dames qui achetaient le chat chaque année, puis qui venaient demander ce livre. Je lui ai dit, écoutez, ça, il faut tout de même... Prenez garde, enfin, vous risquez d'être un petit peu étonné par ce... Elle disait, non, on a déjà lu, ne vous gênez pas, on en redemande. Lâchez-vous tant que vous voulez. Donc finalement, ça plaît et on est heureusement dans un pays où on aime ça.
Et est-ce que vous sentez, comment vous sentez quand vous avez fait un dessin comme ça, particulièrement sombre, dont vous savez que plein de gens vont s'offusquer naturellement. Même moi, je me souviens, il y a eu un ou deux dessins sur la pédophilie des prêtres. Je me suis dit, je ne pourrais pas le passer à la télé, par exemple.
Bien sûr. Non, moi aussi, je suis parfois au bord de la nausée en regardant mon dessin.
Nausée, mais... Il y a une petite gêne quand même.
Bien sûr.
Et est-ce qu'on se sent bien quand on a fait ça?
Oui, parce qu'on est, comme disait l'autre, droit dans ses bottes. Non, là où je suis sûr de moi quand je fais un dessin comme ça, c'est que qu'est-ce qui est choquant dans cette histoire? Est-ce que c'est mon dessin ou est-ce que c'est l'attitude de ces salopards? Voilà, on a répondu à la question.
On peut estimer. Je vois que notre voiture s'arrête, car nous étions en voiture avec Philippe Gueluc.
Ah bah ici, c'est
parfait. On est sur les Champs-Élysées, près de la place de la Concorde.
Voilà.
Merci, monsieur.
Frédéric Tadéhi, en balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
Nous voilà sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Alors pourquoi nous avoir amené là, Philippe Gueluc?
C'est tout de même, c'est trop beau.
Oui,
c'est trop beau. Bien. Alors nous nous trouvons, on démarre de la Concorde là, et nous marchons vers le rond-point des Champs-Élysées, donc sur la partie arborée de l'avenue. Ça s'appelle les jardins des Champs-Élysées, je crois. Je ne sais pas, ça a un nom.
Absolument.
Et en fait, voilà, chaque fois que j'y viens, je marche à grands pas pour mesurer le nombre de mètres exacts qu'il y a entre chaque éclairage. L'autre jour, je l'ai fait, entre chaque grand éclairage urbain et le suivant, il y a 22 mètres. Et
entre
c'est important.
Chaque bec de gaz, enfin ce qui ressemble à.
Non, pas les, alors les becs de gaz, c'est les petits. Les grands, ils vont jusqu'au-dessus des arbres.
Les lampadaires.
Et donc, le soir, ils donnent une lumière comme ça sur la partie droite de l'allée sur laquelle nous marchons. Et c'est important pour moi parce que je vais choisir l'endroit exact où je vais placer les sculptures du chat que je suis en train de préparer pour les exposer ici même l'année prochaine à partir du 9 avril.
Comme Botero ?
Oui.
Botero avait fait ça. Ça faisait un peu. D'un jardin pour riches.
C'était en 92.
Oui.
Voilà.
Et vous, ça va être des chats.
Ça va être des chats.
Aussi gros que les Botteros ?
Plus gros, c'est, ils feront chacun à peu près 2 mètres de haut, sur socle de 60 cm. Donc ça fera des sculptures de 2 mètres 50. Ils seront en bronze. Et ils présenteront chacun une scène humoristico-poétique ou surréaliste ou carrément engagée. Sur des sujets de société, et ils seront disposés tous les 20 ou 40 mètres entre ici et le rond-point.
Mais la mairie de Paris est au courant ?
Ah ben non seulement elle est au courant, mais ça a été voté au Conseil de Paris. En fait, c'est une histoire. Tout à l'heure, quand
parce
on dit.
Ils ont viré les petites boutiques à touristes, les boutiques de verroterie au moment, moment de Noël, c'est pas pour.
Le chat ne vendra rien.
Ah, il sera à vendre quand même.
Ah ben non, oui, non. Alors j'essaye de vendre les sculptures à la vente pour financer toute la tournée, parce que cette exposition qui durera 2 mois à Paris ne coûtera pas un centime à la ville de Paris. Je veux que ce soit un cadeau que je fais à la ville et à ses habitants et à ses touristes.
Vous avez choisi un lieu, un peu comme Kuntz.
Alors je vous raconte.
Qui avait choisi son lieu pour les bouquets de tulipes.
On choisit, mais on peut vous dire oui ou non. Ouais. Et tout à l'heure, on disait, c'est tout de même. Il y a des choses. Enfin, c'est. Est-ce qu'on peut imaginer vers quoi on va aller quand on invente un personnage comme ça ? Non, évidemment. Ce qui est magique dans cette histoire, c'est que je n'ai fait que proposer des choses, et bien libre à l'autre de dire oui ou non. Et poum, comme ça, ça se fait oui. Je prends rendez-vous avec Anne Hidalgo, qui me reçoit très gentiment il y a à peu près un an et demi à la mairie de Paris. Je lui avais envoyé le dossier. Elle me reçoit, vient me chercher dans la salle d'attente, et avant de me dire bonjour, elle me dit « on le fait ». J'adore le projet. Je dis, mais donc, non. Et puis, on s'est vu. Je lui ai raconté le projet en détail. Elle a dit, j'adore votre projet. On le fait. Et il faut évidemment qu'on le vote au Conseil de Paris. Il faut que ça ne coûte pas un centime, etc. Et elle me proposait des lieux dans Paris auxquels elle avait pensé. Mais pas ici. Et je dis, moi, quitte à passer pour un enfant gâté, j'avais rêvé de quelque chose. Elle me dit, oui, mais quoi ? Ben, je dis, les Champs-Élysées comme Botero. Oh, ben, dis pas. Si c'est ça, bon, faisons-le. Et donc, depuis 92, il n'y a plus ce genre de truc. 92, Botero, et 2020, l'autre gros de l'art contemporain.
C'est vous le gros de l'art contemporain ?
Oui, c'est moi le gros. Enfin oui, voilà, c'est parce que l'embonpoint du chat peut faire penser à certains Botero. Mais je ne me prends pas pour un artiste contemporain.
Vous n'avez pas peur que les Gilets jaunes recommencent ?
Non, parce que je crois que...
Ils aiment bien les Champs-Élysées, je vous rappelle.
Oui, mais je pense qu'ils savent que le chat est solidaire avec leurs préoccupations. On ne sait pas. Je ne suis pas certain non plus que cette partie-ci soit accessible. Parce que, vous savez, il y a l'ambassade américaine qui sont là derrière, l'entrée du coq de l'Elysée et tout de même le studio de Michel Drucker. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne touche pas.
C'est vrai que c'était là, hein, vos plus belles heures de la télé française.
Oui, je ne sais pas. C'est
chez Pierre Cardin.
À côté, oui, c'est au studio Gabriel. Hein, ouais, maintenant, c'est maintenant
Gabriel.
Ruquier, il fait son émission « On n'est pas couché ». Donc c'est un studio, oui, qui est important pour moi. Mais c'est pas juste pour plaire à Michel que je viens de faire dans son dos ici. Non, je me dis, c'est juste, imaginez. En fait, moi, je suis un gamin. Vous le savez bien. Dans mon travail, je m'amuse comme un sale gamin à faire des trucs sur des sujets sérieux, sur des gens respectables, etc. Et ici, j'ai l'impression d'être un gamin qui va vivre un rêve de môme. Enfin, j'ai écrit une lettre au Père Noël et le Père Noël m'a répondu. Et il me dit oui, d'accord. Tu voulais un train électrique, le voilà. Et bien ça, j'ai jamais cru que c'était possible.
Frédéric Taddeï se balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a encore des gens pour qui le chat, c'est The Cat de Jimmy Smith.
Ah oui, mais ça... Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que le chat, le mien, est traduit en anglais.
Et traduit dans toutes les langues, même en chinois.
Même en chinois, oui. Mais le traducteur a trouvé cette astuce que je trouve extrêmement élégante, c'est qu'il l'appelle le cat. Non pas The Cat, mais le cat.
The Cat, c'est Jimmy Smith, qui interprète d'ailleurs The Cat dans cette émission. On était en 1964 et c'était ça.
Europe 1, 11h30, en balade avec Philippe Gueluc.
The Cat, interprété par Jimmy Smith, une composition de Lalo Schifrin. Pendant qu'on écoutait cette musique, oui. Vous m'avez montré des photos de vos sculptures monumentales.
Oui. Oui.
Voilà, elles seront vertes. Voilà, un peu, ça rappellera un peu le Grand Palais.
La toiture en zinc du Grand Palais.
Vous n'avez pas dit tout à l'heure que vous pensiez que les personnages dessinés, ça devait rester dessiné?
Oui, mais sauf que quand ça prend forme,
on peut pas s'arrêter.
Et le fondeur avec qui je travaille m'a dit, me voyant travailler, modeler la terre, il me dit, quand je te vois travailler, tu prends tellement de plaisir. Il dit, tu vas plus faire que ça. Alors je sais pas, mais en tout cas, c'est un bonheur charnel, c'est un bonheur voluptueux de modeler la terre glaise. Mais je le fais à taille modeste, à 50-60 cm, et puis c'est une fraiseuse qui les agrandit.
Bah, la prochaine fois, ce sera Tiananmen, je pense. On se retrouve avec Philippe Gueluc. Tant qu'on peut encore.
Ne me tentez pas.
Tant qu'on peut encore lui parler. Juste après ça. C'est la fin de notre balade avec Philippe Gueluc.
Nous sommes toujours sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas encore ces chats de plusieurs mètres de haut, mais c'est pour quand ?
Ça commencera le 9 avril 2020 jusqu'à début juin. Donc
jusqu'à ce que les Parisiens se révoltent.
Non, vous savez quoi ? Ils m'ont dit qu'il faut absolument les retirer un moment parce qu'ils doivent installer les gradins pour le défilé du 14 juillet. J'ai dit, mais si on les laissait pendant le défilé, non, ça, on ne peut pas. Je dis, même, je vous fais une statue du chat en militaire qui salue les troupes. Non, 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 non. Il faut les tribunes. Donc, je me barre à ce moment-là. Et nous nous déplaçons vers Bordeaux, où nous allons installer l'exposition pour 3 mois sur les quais de la Garonne. Et puis, on va continuer à travers 10 villes en France, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique, dans l'espoir de terminer la tournée à Bruxelles, au moment de l'inauguration du futur musée du chat. Mais ça, c'est un autre chapitre.
J'allais vous en parler du musée du chat. Mais ça, c'est pour... Parce que depuis le temps que vous en parlez, il va enfin ouvrir.
Oui, mais enfin, il y a l'administration belge qui est...
Ah, ils sont moins rigolos que chez nous. Hein. On vous dit oui tout de suite.
Mais... Voilà. Nous, on m'a dit oui, mais après, ça traîne. Voilà, mais ça, voilà. Je suis patient, on verra. Je me suis renseigné. Soulage avait 95 ans au moment de l'inauguration de son musée. Et Tommy Ungerer en avait 85 pour le sien à Strasbourg.
J'allais vous dire, c'est plus rare pour les dessinateurs d'humour comme Tommy Ungerer par exemple.
Absolument. Ou vous. Magnifique musée à Strasbourg, géant du dessin d'humour et de l'illustration et de l'affiche.
J'ai souvent reçu sur Europe 1.
Ah mais merci, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas... Vous allez dans la rue, vous demandez qui est Tommy Ungerer, les gens ne savent pas. Vous leur parlez des trois brigands, là ils disent, ou du géant de Zeralda, c'est livre pour enfants, ils disent « Ah oui, je vois ». Mais c'est incroyable. Et comme quoi, parfois c'est utile pour un dessinateur de passer chez Drucker pour que les gens voient un petit peu qui vous êtes.
Mais c'est quand même marrant cet amour que vous avez des musées. Parce que vous nous avez trimballé toute la matinée dans des endroits à Paris où le chat a été exposé en grande pompe, que ce soit aux Beaux-Arts, au Musée en Herbe, maintenant aux Champs-Élysées. Vous avez quand même ça, c'est important pour vous, la muséification.
Non, pas la muséification, mais la muséophilie est importante.
Ça date de votre maman qui vous emmenait au musée ?
Oui, je crois, ça m'a semblé, on a la plus chouette maman du monde, toujours, et puis elle m'emmenait dans les endroits les plus merveilleux qu'elle pouvait. C'était gratuit, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que ça m'a enrichi dans ma tête ? Et moi, ce que j'ai envie, c'est de transmettre cette passion des musées, c'est de dire, allez au musée, emplissez-vous les yeux et les sens de ces merveilles qui nous ont été léguées par des gens qui faisaient ce métier. Moi, honnêtement, quand je vois un tableau de Rembrandt, j'ai l'impression que Rembrandt me parle directement à moi en disant, c'est pour toi que je l'ai fait. Eh bien, il l'a fait pour tout le monde et il faut qu'on le sache. Et les artistes, à travers l'histoire, nous ont légué des cadeaux inestimables. Et il faut se montrer digne de cet héritage-là.
Voilà, il faudra qu'on se montre digne des chats seront sur les Champs-Élysées.
J'imagine l'un ou l'autre promeneur avec son chien qui lèvera la patte sur un ou deux socles. Bon, ça pourra faire de jolies photos.
Vous ne serez pas là à vouloir verbaliser à tout craint.
Oh non, c'est pas mon genre. Non. Ça appartiendra. Non, c'est ça. Moi, j'ai envie.
Parce que dès qu'on plus on se sent artiste et plus on est révéré en tant que tel et plus on est exposé, plus tout à coup on devient regardant sur la manière dont sont traitées nos œuvres.
Ah non, moi je propose et puis les gens disposent et ils auront envie. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des accidents, il ne faut pas qu'ils montent sur les trucs pour essayer d'arracher une oreille du chat. Mais j'ai envie que les gens se les approprient, viennent les caresser. Vous imaginez, vous verrez des gens qui vont venir caresser le chat en bronze, ce qui était derrière moi mon réflexe d'enfant quand j'étais môme. Là où je passais dans les squares où j'allais jouer, je caressais les bronzes tant cette matière me fascinait déjà.
Frédéric Taddeï se balade avec Philippe Gueluc sur Europe 1.
Nous sommes juste devant l'entrée de l'Élysée, alors l'entrée du parc, ce très beau...
Elle s'appelle l'entrée du coq.
L'entrée du coq.
Elle se trouve avenue Gabriel et c'est un peu l'entrée de service.
C'est l'entrée d'apparat.
C'est d'apparat.
Bah oui, puisqu'on entre, c'est l'ouverture par laquelle on entre le 14 juillet.
Ah, moi je croyais qu'on livrait les sandwichs, pas.
Non, il y a d'autres entrées pour ça.
Ah bon, d'accord. vous voyez, vous m'apprenez des choses.
Jamais allé à l'Élysée,
si, deux fois, une fois, bonjour madame.
Bonjour.
Ah, mais moi je suis un étranger à Paris.
Vous êtes le père du chat ?
Oui, voilà.
C'est pour Europe 1 ?
Oui.
Ah, d'accord. Bon, ce sont des fidèles auditeurs.
Voilà, et nous passons en ce moment. Au revoir.
D'accord, bah, ravi de vous avoir eu.
Et donc,
merci.
Les, oui, je suis allé une fois, nous avions été reçus par le couple Chirac après avoir fait un dimanche spécial avec Bernadette Chirac. Et ils ont invité toute l'équipe, tous les techniciens, ça, c'était magnifique. Et puis, je suis allé une autre fois pour quand Jean-Pierre Coff a reçu la Légion d'honneur des mains de François Hollande. Voilà, Jean-Pierre était un ami et voilà, c'est rigolo, c'est des petits moments où on se dit, tiens, on a la chance de vivre ça. Encore une fois, c'est le gamin qui se dit, mais qu'est-ce que je fais.
Ce qui est marrant, c'est que nous, les Français, on se contente de décorations, et alors que vous, il vous faut des musées en Belgique. Hein.
Oui, voilà, je préfère. Mais c'est plus lourd à porter.
Qu'est-ce que vous faites le dimanche habituellement?
Alors, c'est le dimanche, c'est le. Là, vous me rappelez un moment douloureux de ma vie, c'est que comme je travaille beaucoup toute la semaine, ma femme me saute dessus pour jouer au Scrabble.
C'est vrai, vous l'avez raconté dans un album. Je
absolument.
Vous racontiez votre vie de couple.
Donc, j'essaye de lui proposer de faire le marché parce qu'on adore ça. Mais au retour, elle dit non, avant de partir au marché, un Scrabble, ok, je me dis c'est bien. Après, il faut encore en faire deux ou trois ou quatre. Et tant qu'elle ne m'a pas écrabouillé la gueule au score, elle en veut toujours. Donc, j'évite de trop gagner, voilà. Parce qu'au moins, quand je perds, ben, à un moment, sa soif est assouvie et nous pouvons passer à d'autres activités.
Merci Philippe Geluck de nous avoir amené en balade avec vous. On va remercier Sylvie et son musée en herbe.
Sylvie Girardet, bien sûr.
Voilà, de nous avoir si gentiment accueillis. Julien au bistrot d'Henri. Ouais. Julien et David au bistrot. Oui, je veux toujours que ce soit David, mais c'était Julien.
C'était David. C'était pas Julien.
C'était le bistrot d'Henri, rue Princesse. On remercie aussi l'École des Beaux-Arts, dont vous n'avez pas été élève, mais on vous a bien traité, bien exposé. Bien accueilli. Voilà. Et puis, on va remercier aussi la mairie de Paris, puisqu'elle vous donne les Champs-Élysées.
Merci, la mairie de Paris. Ah oui, non, c'est trop. C'est trop
merci
bien.
De nous avoir suivis. Bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour une autre balade.